Radio Okapi. Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation.
Hausse du prix du poisson chinchard, autrement dit mpiodi, dans les différents marchés de Kinshasa et dans les chambres froides où s'approvisionnent les commerçants. Le prix d'un carton de 30 kg de vin plus passe de 59 à 84 dollars. Raison, la rareté durant cette période précédant les fêtes de fin d'année de ce poisson très prisé par les Quinois. Regain des cas de banditisme urbain dans la ville de Kasumbalesa, province du Haut-Katanga. Dans ce journal, vous suivrez le maire de la ville qui rassure ses administrés que des efforts sont fournis pour mettre hors d'état de nuire, c'est hors la loi. Francis Kamgem, représentant de la Fondation Hirondelle en RDC, est l'invité de ce journal. Il va revenir sur la formation d'une dizaine de journalistes de Kinshasa sur les enjeux de la désinformation par des acteurs étatiques notamment. Bonjour à tous. Comme je l'ai dit dans le sommaire, le poisson chinchard mpiodi pour le quinois devient de plus en plus rare et par conséquent, son prix est revu à la hausse dans les différents marchés de Kinshasa ainsi que dans les chambres froides où les commerçants s'approvisionnent. Un carton de 30 kilos de vin plus qui se vendait à 59 dollars il y a quelques mois revient actuellement à 84 dollars aux grandes dames des consommateurs de ce poisson très prisé par les quinois et au prix habituellement abordable pour plusieurs ménages. Suivez ce reportage de Plamedi Mbiyavanga rendu par Rachel Kessembango.
Face à cette rareté, de nombreuses vendeuses ont opté de se rendre plus tôt dans des chambres froides pour être les premières servies, les stocks étant très limités. Ainsi, dès 4h du matin, elles sont sur les routes. Mais malgré cela, certaines rentrent bredouilles.
Nous venons à 4 heures pour acheter le chinchard. Lorsqu'on augmente les prix, au niveau du marché, les gens n'achètent pas.
Je suis venu acheter les poissons, les prix varient entre 85 dollars et 90 dollars.
Elle demande au gouvernement de trouver une solution.
L'État doit revoir cette situation car les chinchards se mangent chaque jour. Les chinchards se perdent pendant la saison sèche. On ne comprend pas, pendant la pluie, il n'y a pas.
Des sources proches du dossier lient cette situation à deux facteurs notamment. Un effet saisonnier habituel qui impacte la disponibilité de certains produits, y compris les chinchards, en cette période de l'année. Autre facteur, l'impact des récentes mesures du gouvernement interdisant notamment l'entrée en RDC par le poste frontalier de Lufu des véhicules immatriculés en Angola. Or, depuis un temps, une partie des stocks de chinchards entre par ce pays voisin. Le coût supplémentaire de transport que subissent les commerçants a entraîné la hausse des prix de plusieurs produits qui passent par ce corridor.
Toujours dans le chapitre économique, au Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Beni interdit l'usage de la monnaie ougandaise dans la chefferie de Watalinga à la frontière avec l'Ouganda. La décision a été annoncée lors de sa récente tournée dans cette région. Le colonel Euta Omeonga Charles insiste sur le respect des lois congolaises stipulant que seule la monnaie nationale doit être utilisée. De son côté, la société civile locale appelle le gouvernement à faciliter l'accès à des structures financières dans cette zone enclavée. Les détails avec Guylaine Kassassia.
Lors de sa visite le week-end dernier à Watalinga, le colonel Euta Omeonga Charles a exhorté la population à privilégier l'usage du franc congolais et à respecter la mesure déjà en vigueur.
On va chercher le franc congolais qui va travailler et s'aller là-bas. Sauf que les gens sont un pied dedans et un pied dehors. S'il veut être en Ouganda, qu'il reste en Ouganda. S'ils sont les Congolais, qu'il reste au Congo et utiliser la monnaie congolaise. On a déjà pris cette mesure et je ne pense pas que je peux me contredire.
De son côté, la société civile locale déplore l'absence d'infrastructures financières et exhorte le gouvernement à désenclaver la région afin de faciliter une meilleure circulation de la monnaie nationale. Odette Zawadi est sa présidente.
Ça fait longtemps que nous utilisons la monnaie ougandaise parce que notre millier est enclavé. Lorsque l'administrateur a pris cette décision, nous lui avons dit que la population de Kamango est prête à utiliser la monnaie congolaise, mais qu'il nous amène de banques ou des changeurs pour que la population ait la facilité d'utiliser cette monnaie congolaise.
Signalons que pour s'approvisionner en biens de première nécessité, la chefferie de Watalinga dépend principalement de ses liens commerciaux avec l'Ouganda. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa. La modernisation de l'administration publique passe par un travail décent et une justice sociale. En tout cas, selon la primature et l'Organisation internationale du travail OIT, qui ont décidé d'œuvrer ensemble pour des emplois de qualité et protégés. Ils ont organisé un atelier de 2 jours dont l'ouverture a eu lieu hier jeudi à Kinshasa à l'intention des secrétaires généraux de l'administration publique, des directeurs chefs de service, les coordonnateurs des services rattachés à la primature, les chefs des bureaux et autres. C'est pour s'assurer de la contribution efficace du secrétariat général de la primature à l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'emploi en RDC. Emmanuel Elamejo Akabidi.
L'Organisation internationale du travail et les gouvernements congolais travaillent sur la promotion du travail décent et la justice sociale en RDC. Madame Nteba Soumano, directrice bureau pays de l'OIT.
L'Organisation internationale du travail collabore avec le gouvernement de la République du Congo ainsi que d'autres parties prenantes pour promouvoir le travail décent et la justice sociale, c'est-à-dire la création d'emplois décents, la protection sociale, il nous faut des emplois protégés, les droits des travailleurs et le dialogue social.
L'objectif de ces travaux est de s'assurer d'une contribution efficace du secrétariat général de la primature à l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'emploi en RDC. La première ministre, chef du gouvernement, veut une administration plus performante.
Le présent atelier s'inscrit dans la vision de renforcer l'efficacité des services publics à tous les niveaux, afin de permettre à tous les agents de l'État en République démocratique du Congo de se perfectionner dans le but de rendre de meilleurs services aux usagers, vers une administration de la primature plus performante au service de la population.
Ces travaux des 2 jours réunissent les secrétaires généraux de l'administration publique, les directeurs chefs de service, les coordonnateurs des services rattachés à la primature, ainsi que les chefs de bureau et autres.
Toujours à Kinshasa, plusieurs organisations féminines congolaises se mettent ensemble pour créer un réseau pour aider les jeunes filles en difficulté à travers le projet dénommé INIGHT, entendez formation des filles et société civile inspirée pour une éducation inclusive et transformatrice. Ce projet a été lancé mercredi par 7 organisations de la société civile. Émilie Jacquard, chef de ce projet, donne les priorités. Elle est au micro de Étienne Lissumbu.
C'est un projet de 36 mois qui a commencé l'année dernière et qui va se terminer en 2026, financé par l'Agence française de développement. On travaille dans 7 pays, le Congo, le Nigeria, le Cameroun, l'Éthiopie, le Liban et la Jordanie, avec le Burkina Faso aussi. Donc on travaille au Moyen-Orient et en Afrique pour soutenir les organisations de la société civile féministe et les adolescentes pour favoriser l'inclusion et l'accès à l'éducation de qualité pour les adolescentes dans ces 7 pays. Donc comment on va arriver à répondre à cet objectif, on a 3 composantes principales. La première, c'est l'octroi de subventions flexibles. Et ça, c'est vraiment la plus-value du projet Ignite, c'est qu'on donne de l'argent aux organisations de la société civile dans ces 7 pays partenaires qui viennent de toutes les régions du Congo, du Sud Kivu, du Kasaï, du Tanganyika, de Kinshasa, qui sont là avec nos formatrices et formateurs. Renforcer la 3e composante du projet Ignite, qui est la recherche action et le plaidoyer. Puisque, comme je le disais aujourd'hui, si on reste ensemble dans notre hôtel et que ça ne sort pas, ça sert à rien.
La société civile de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga alerte sur l'insécurité grandissante dans cette ville frontalière. Il ne se passe pas un seul jour sans que des maisons ne soient visitées par des bandits armés. Le maire de Kasumbalesa reconnaît cette situation. Il invite ses administrés au calme et à la mobilisation des énergies pour dénoncer tous les malfrats qui sèment la terreur dans sa ville. André Kapampa les rassure que les efforts sont fournis pour mettre hors d'état de nuire et c'est hors la loi. André Kapampa, maire de Kasumbalesa et joint par Jean Gandou.
Kasumbalesa connaît une montée de la criminalité urbaine parce que les cas de vol sont signalés par effraction, les cas de tentatives d'enlèvement, des cas même de viol également. Malheureusement, c'est une situation qui survient alors qu'il y a peu, les bandits des grands chemins ont été neutralisés et présentés devant la presse et la population, les munitions et les armes qu'ils avaient. Ici, il convient donc pour moi de mobiliser mes concitoyens et saluer les efforts qu'ils mènent. Mais également, en ces lieux, il y a nécessité pour eux et pour nos forces de nous mobiliser tous afin de mettre hors d'état de nuire ces malfrats comme nous l'avons toujours d'ailleurs fait, si souvent. Les difficultés sont signalées, c'est des difficultés d'ordre logistique. Le gouverneur de la province est en train d'y veiller, mais vous savez, en toute chose, c'est d'abord l'homme. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes mobilisés tous pour que rapidement nous puissions apporter une réponse appropriée à cette question d'insécurité qui refait surface à Kasumbalesa.
Et puis au sud Kivu, en plus bref, 6 militaires de l'armée régulière en exercice au sein du secteur opérationnel Sokola 2 sud Kivu sont aux arrêts à Uvira depuis mercredi. Le commandant secteur intérimaire qui a ordonné leur arrestation les accuse d'avoir torturé une dame et son conjoint à Mikenge, groupement Itombwe dans le territoire de Mwenga. Parmi les militaires incriminés, il y a un caporal et 5 adjudants deuxième classe. Le député national Karlin Zanzuka Sivita interpelle le vice-premier ministre en charge de l'intérieur sur la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante dans le Nord Kivu. Dans une correspondance datée du 20 novembre, l'ancien gouverneur de cette province insiste sur l'urgence de renforcer les mesures de sécurité, en particulier dans les villes de Goma, Butembo et Beni, ainsi qu'à la cité frontalière de Kasindi, Lubira. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans sa lettre, Karlin Zanzuka Sivita met en évidence plusieurs défis sécuritaires majeurs, dont les meurtres, les vols armés, les enlèvements et les actes de justice populaire exacerbés par les conflits en cours. Il plaide pour une priorisation des services de sécurité et des renseignements soutenus par un renforcement logistique. L'élite du territoire de Beni propose d'allouer des fonds initialement prévus pour l'Assemblée provinciale et suspendus depuis mai 2021 à l'acquisition des véhicules pour la police. Il appelle aussi à une intervention rapide pour soulager les populations locales lourdement affectées par la criminalité persistante. Dans un rapport, la société civile de Goma a rapporté 55 cas de meurtres ciblés survenus au cours des 3 derniers mois. Les villes de Beni et Butembo ainsi que Kasindi Lubiria ne sont pas épargnées par les vols armés, souvent sans ou avec une intervention tardive des forces de défense et de sécurité. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
S'agissant toujours de la sécurité et plus globalement de la paix au Nord Kivu, notez que cette question était au menu des échanges que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a eu hier à Goma, tour à tour avec le collectif des jeunes, les représentants de la société civile, ainsi que les femmes du collectif des associations féminines pour le développement CAFED. À l'issue de l'entretien, Isabelle Pendeza, présidente du CAFED, a exprimé sa satisfaction au micro de Chris Mukande.
Nous avons commencé d'abord par passer en revue le processus de l'aide de Nairobi, parce que c'est avec son implication directe qu'on est arrivé à amener des femmes à Nairobi où elles ont participé au processus de Nairobi, mais aussi des femmes victimes qui ont témoigné elles-mêmes de la situation et des conséquences des conflits sur leur vie. Et puis nous avons parlé du processus de Luanda. C'est un processus politique. C'est pas un processus qui est ouvert à tout le monde, mais au moins les femmes ont y a trouvé un canal où elles peuvent faire passer la voix de la femme. Et la voix de cette femme ne sera pas passée par d'autres personnes à part d'abord les femmes. Et alors je pense que c'est un mécanisme qui est en cours et que nous devons saluer et encourager, mais aussi féliciter d'ailleurs tous les partenaires qui ne cessent d'accompagner et d'appuyer le processus afin que la paix soit une paix réelle et surtout une paix durable dans notre pays. Et nous avons soumis certaines demandes et certaines recommandations, et elle nous a rassuré de son accompagnement mais aussi de son implication afin que nous puissions arriver à trouver ce que nous on a demandé et ce que nous avons recommandé.
En Ituri, des centaines d'enfants vivant avec handicap sont victimes de discrimination dans les écoles de la part des autres élèves. C'est entre autres l'exclusion, les moqueries ainsi que des insultes proférées à cause de leur état. Ce constat est fait par le comité provincial du Parlement d'enfants qui dit avoir reçu plusieurs plaintes depuis le début de cette année scolaire. La Fédération provinciale des personnes vivant avec handicap dénonce ces actes qui, selon elle, constituent une violation de leurs droits. Ézéchiel Mouzalia.
Vanessa Kabasizungu, 17 ans, est handicapée. Elle étudie au complexe scolaire Shalom de Bounia en Ituri, où elle dit être victime de son handicap. Selon elle, sa déformation physique depuis sa naissance ne lui permet pas de jouir correctement des mêmes droits que les autres enfants dans la société ou à l'école. Elle partage son indignation.
À l'école, on ne me considère pas parce que je suis handicapée. Je suis maltraitée, je suis menacée par quelques personnes qui ne me comprennent pas. Ça me rend comme si je ne suis pas capable d'étudier avec les autres.
Le président provincial de la Fédération des personnes vivant avec handicap indique que des centaines d'enfants font l'objet de discriminations, ce qui constitue une violation flagrante des droits des personnes vivant avec handicap. Roger Kaviavou, président de cette structure.
L'enfant, s'il commence à être discriminé, cela c'est une grande violation des droits de l'homme. Nous, l'ensemble des droits les plus alarmes aux autorités, nous acceptons à voir
Le nouveau comité provincial du Parlement des enfants de l'Ituri invite la communauté au respect des droits des enfants. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un jour après avoir limogé le premier ministre Choguel Maïga, les militaires au pouvoir au Mali ont nommé un nouveau chef du gouvernement issu des rangs des généraux militaires. Il s'agit du général Abdoulaye Maïga, âgé de 43 ans, qui a le même nom que son prédécesseur, mais qui n'a aucun lien de parenté avec ce dernier. Choguel Maïga, qui était un civil, avait critiqué les militaires au pouvoir pour avoir reporté l'élection présidentielle prévue pour 2024. Il a été démis de ses fonctions quelques jours après avoir tenu ses propos. La nomination d'Abdoulaye Maïga signifie que les trois branches du gouvernement, à savoir la présidence malienne, le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition, et le poste de premier ministre sont désormais entre les mains d'officiers militaires.
L'invité.
Du lundi 18 novembre au jeudi 21 novembre, une dizaine de journalistes de Kinshasa ont pris part à une session de formation sur les enjeux de la désinformation, notamment celle orchestrée par des acteurs étatiques. Organisée par la Fondation Hirondelle, une organisation d'appui aux médias, cette formation vise à doter les journalistes des outils nécessaires pour identifier et sensibiliser le public sur les fausses nouvelles, y compris celles générées par l'intelligence artificielle. L'objectif est de permettre aux professionnels des médias de démêler le vrai du faux dans le flot d'informations qui circulent sur les plateformes digitales. Francis Kamgem, représentant de la Fondation Hirondelle en RDC, est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Polly Mouzalia.
Francis Kamgem, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous estimé important de former des journalistes de Kinshasa sur les enjeux de la désinformation?
Vous savez, cela s'inscrit d'abord dans la mission de la Fondation Hirondelle, qui œuvre, n'est-ce pas, pour le renforcement des capacités de tous les acteurs médiatiques. Et donc, la Fondation Hirondelle a organisé cette formation pour répondre à l'un des défis majeurs de notre époque. Il s'agit de la désinformation, notamment surtout celle provenant des sources influentes, comme certains acteurs étatiques et affiliés. Et vous savez, c'est un phénomène qui sape la confiance du public dans les médias et menace la cohésion sociale, particulièrement dans un contexte comme celui de la RDC.
Quels sont les points essentiels qui ont été abordés au cours de cet atelier de formation?
Oui, les points abordés sont en alignement avec les objectifs qui étaient assignés à cette formation. Vous savez, nos objectifs principaux étaient d'outiller les journalistes congolais avec des compétences avancées et des outils modernes, notamment l'intelligence artificielle, pour identifier, analyser et répondre efficacement à la désinformation. Cette initiative donc vise à renforcer leur capacité à produire des contenus fiables et à jouer le rôle de pilier d'une information crédible et responsable.
Parmi les aspects abordés au cours de cet atelier, il y avait notamment la question de la désinformation produite par des acteurs étatiques, vous l'avez dit. En quoi cela est-il un enjeu pour la République démocratique du Congo et la sous-région des Grands Lacs?
Oui, le contexte actuel de la RDC met en lumière, n'est-ce pas, des questions qui soulèvent beaucoup de questionnements aussi, si vous permettez, autour, n'est-ce pas, de la responsabilité des pays voisins de la RDC dans la situation que vit la République démocratique du Congo. Et ceci étant, cela a entraîné des discours de plusieurs ordres qui pourraient donc contribuer à alimenter certaines préoccupations, n'est-ce pas, de la part des communautés, des citoyens de la RDC. Et donc, il est important que face à cela, les journalistes soient capables d'y répondre efficacement, sans parti pris, pour pouvoir continuer leur rôle d'information des communautés. Et ipso facto, va contribuer donc à mitiguer les tensions sociales et l'acceptance même des ressortissants de ces communautés-là. Donc oui, les acteurs étatiques étant des sources influentes de la désinformation, ils méritent donc qu'une attention particulière leur soit accordée pour pouvoir contribuer à mitiguer ce phénomène dans le contexte de la RDC.
Au cours de cet atelier, il était également question de sensibiliser les journalistes sur l'intelligence artificielle, une technologie qui est de plus en plus utilisée pour générer de fausses nouvelles. Quelle est l'ampleur de ce phénomène en RDC et de quelle manière est-ce que les journalistes peuvent aider à sensibiliser le public sur les contenus générés via l'intelligence artificielle?
Oui, vous savez, de nos jours, la désinformation a épousé, n'est-ce pas, un niveau très sophistiqué. Grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une vidéo publiée sur un réseau social pourrait prêter à confusion, alors que ce pourrait être des vidéos qui ont été conçues dans les laboratoires. Et donc, il est important que les journalistes soient sensibilisés à cela pour pouvoir avoir les outils techniques nécessaires pour démêler les vrais du faux et pouvoir analyser une vidéo ou un son pour pouvoir mieux sensibiliser dans leur communauté. Parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, fût-il des sons ou des vidéos, n'émanent pas toujours d'une source digne de foi. Et donc, pour nous, l'utilisation de ces outils donc, va contribuer à renforcer leur capacité et leur éveil, leur résilience même face à ces défis que véhicule, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle.
Après l'étape de Kinshasa, avez-vous prévu de former d'autres journalistes en République démocratique du Congo, dans d'autres villes?
Oui, c'était un projet pilote qui couvrait 4 provinces cibles. En dehors de Kinshasa, nous avions été déjà à Goma, nous avions été déjà à Mbujimayi. La session de Lubumbashi est en cours et se termine aussi demain. Donc, à terme, nous aurions mobilisé les journalistes congolais dans 4 principales provinces d'ici la fin de la semaine.
Francis Kamgem, merci.
C'est un plaisir. Je vous remercie aussi.